Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Aujourd'hui, 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille, entretien avec Bruno Sorez. Troisième partie, le naturisme à Marseille après la Seconde Guerre mondiale.
Il faut agir immédiatement. C'est moi, monsieur. Passez-moi l'expression. Les nudistes crevent chaud. Les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils me narguent. Rassemblez tout le monde. Allez. Péricot, qu'est-ce qu'elle dit?
Chef, c'est quelqu'un de tout nu.
Merlot, qu'est-ce qu'il y a là?
C'est quelqu'un de tout habillé, chef.
Avec un uniforme.
Très bien. Donc, si le gendarme est tout nu, il peut approcher le tout nu. Mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. Par contre, si le tout nu voit le gendarme, il s'habille et rien ne prouve plus qu'il soit du risque. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de métier et donné contradictoire. Alors nous attaquerons l'ennemi de toutes parts. Je demande un bon verre pour se mettre tout nu au milieu des listes. Parfait. Au hasard, une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que je veux dire?
Et moi j'ai rien dit, chef.
Tu avais trop entendu parler?
Ah non, je vous jure, chef.
Marchez comme tu veux. Et puis, sans pas.
Ah, bah ça, c'est de la triche.
Comment?
Non, je disais, c'est de la triche.
Non, dites-vous, priorité. Qu'est-ce que vous disiez?
Oh, rien, rien, rien.
Ah, je vous entends murmurer. Et moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain. Hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous en disent. N'est-ce pas? On paye!
C'est pas grand-chose. Peut-être que juste un petit slip.
Tu quoi?
Non, juste un petit slip, je disais, c'est
histoire.
Quand il faut, un chef.
Alors, la guerre terminée, c'est la libération, pas pour autant la libération des mœurs, parce que nous sommes dans les années 50 et 60. Une ère pudique d'ailleurs, sélection en anglais. Madame de Gaulle qui avait censuré quelques chansons de Pierre Perret comme les colonies de vacances dans les médias. Comment ça se déroule le mouvement naturiste dans les années 50-60? Comment ça évolue de 45 à 69? 69 était une date qui correspond à la mort d'un des précurseurs du naturisme.
C'est ça, ça correspond au décès de M. Albert Lecoq. Comme nous avons vu dans les émissions précédentes, le naturisme avant la Seconde Guerre mondiale était essentiellement élitiste, réservé à une bourgeoisie. Après, ça peut se comprendre vu que les congés payés n'ont existé qu'à partir de 1936, donc forcément les gens ne pouvaient pas aller en camping. Et donc, ce qu'a voulu un des précurseurs du naturisme et sa femme Albert et Christiane Lecoq après la Seconde Guerre mondiale, c'est de permettre à tout un chacun de profiter de lieux de vacances accessibles financièrement et à la portée de tout le monde, c'est-à-dire pas très loin de chez eux. Ils ont eu l'idée de mettre en place des petits clubs qu'ils ont appelés les clubs du soleil, avec pour but d'en instaurer un dans chaque ville de France. Donc ça, c'était l'idée première, c'était de permettre à tout un chacun de profiter de la nature dans le plus simple appareil et que ça soit plus réservé à une élite française. Donc dans ce cadre-là, ils ont mis en place un premier club du soleil à Carrières-sous-Seine, donc chez eux, et ils ont déposé les statuts des clubs du soleil avant même l'armistice, en je ne sais plus quel mois de 44. Et puis plus tard, ils ont créé la Fédération Française du Naturisme, et qu'ils ont commencé à mettre en place en 48, en réunissant tous les clubs naturistes de l'époque qui existaient, et qui commençaient à renaître de leurs cendres, et ils ont créé la Fédération Française du Naturisme en 1950.
Donc Albert Lecoq qui a créé la Fédération Française de Naturisme. Et on dit aussi qu'Albert Lecoq était quelqu'un de très égalitaire, quoi. Des fois il obligeait les gens, mais s'il fallait s'habiller, il fallait que chacun se mette tous un survêtement dans la même couleur, et qu'il y avait pour se déshabiller des vestiaires. On se déshabillait pas un peu comme ça?
Alors pour les vestiaires, pour être honnête, je sais pas. Par contre, l'histoire des survêtements, oui, ça c'est vrai. En fait, l'idée première du naturisme, c'était que tout le monde nu, tout le monde était égaux. Il n'y avait pas de différence sociale. Donc les bijoux étaient interdits parce qu'il n'était pas question de montrer qu'on faisait partie d'une certaine aisance financière, une classe sociale. Les voitures étaient garées à l'extérieur du camp ou en tout cas à l'entrée du camp, et on accédait à sa zone de camping sans voiture, avec les bagages à la main. Que tout artifice qui pourrait dénoter qu'on était d'une certaine classe sociale était rangé dans la voiture et était interdit dans le centre. Les montres, les bijoux, à part l'alliance évidemment, étaient interdits. interdit. Et quand on avait froid, ben, il fallait mettre un survêtement Adidas. C'était la seule marque quasiment en France de toute manière.
On précise aux auditeurs que c'était la seule marque Adidas en France. Ça, c'est pas de la pub pour la radio.
Non, non, ben, les autres marques existaient peu. Et donc, du coup, c'était les survêtements bleus pour tout le monde.
Donc, du bleu pour tout le monde. Donc, c'était quand même une méthode spartiate, non ?
C'est, de notre point de vue aujourd'hui, oui, un petit peu très, très rigoureux. Quand on considère que le naturisme, c'est la liberté, c'est vrai que là, le règlement d'intérieur fait penser à quelque chose de trop sérieux, de trop carré. Et, mais le but, il faut... En fait, c'est pas à toi que je vais apprendre en tant qu'historien que quand on étudie un petit peu le passé, il faut toujours contextualiser l'événement et considérer qu'à l'époque, on réfléchissait pas forcément avec les mêmes idées qu'aujourd'hui, les mêmes mentalités.
Oui, certes, à l'époque même, il n'y avait pas les tatouages sur les personnes aussi.
Ah, les tatouages étaient aussi interdits. Enfin, en 1950, il n'y en avait pas, mais quand ça a commencé à un peu apparaître, c'était interdit dans les centres de vacances naturistes, les tatouages. C'était en tout cas très mal vu.
Sauf pour quelques anciens marins qui avaient des tatouages de leur jeunesse.
Ah, je ne sais pas s'il y avait des exceptions, mais en tout cas, ils étaient regardés d'un œil suspicieux. Parce que, en fait, le but du naturisme, c'était qu'aucune partie de notre corps ne soit mise en valeur par rapport à une autre partie. C'est-à-dire que si on porte un bijou à la taille, genre comme un collier à la taille, peut avoir un regard qui est porté sur le bijou. Donc du coup, c'est une partie du corps qui est mise en valeur.
Bon, pas les piercings qui n'existaient pas à l'époque, et les boucles d'oreilles non plus.
Je sais pas si les boucles d'oreilles étaient interdites. Ça, j'avoue que peut-être que c'était un bijou qui était rentré dans les mœurs, c'est que les boucles d'oreilles pour les femmes étaient autorisées. Je pense que c'était autorisé de tout si c'était quelque chose de modeste et de discret.
Attention, nous voici à une vingtaine de kilomètres de Lyon, au club de la Reynière, où la plupart des naturistes lyonnais retrouvent leur élément. Apparemment, un camp qui ressemble davantage à un petit village. Chacun y dispose de 100 mètres carrés qu'il agrémente selon son goût, 70 bungalows, une quarantaine de caravanes et un nombre égal de tentes, le tout réparti sur 10 hectares. Voilà de quoi satisfaire au goût des 500 adhérents lyonnais et de leurs 200 enfants. De nombreux Helvétiques ont également choisi le camp de Villette-Danton en guise de résidence secondaire, séduit par sa propreté, son élégance et ses installations. Car, outre ses parkings extérieurs, son restaurant et ses sanitaires parfaitement équipés, le camp de Villette-Danton propose aux naturistes deux terrains de volley, plusieurs tables de ping-pong, une aire de jeu pour enfants, un emplacement réservé au badminton et à la pétanque et une indispensable piscine où les enfants disposent de leur propre bassin. Peut-être de quoi séduire les plus réticents. Ils sont déjà 20 000 en France, en progression constante, les 100 000 adhérents seront sans doute atteints avant 10 ans. Mais quelles sont, croyez-vous, les raisons qui font choisir le naturisme ? C'est la question que nous avons posée à Monsieur Prima, délégué régional de la FFN.
Mais nous estimons que dans le monde surmené actuel, le besoin de loisirs, de repos et de grand air est déjà devenu important et va devenir de plus en plus important. Or, une masse très valable de familles recherche ces loisirs et ces grands air dans la simplicité et dans l'aération complète, morale et physique de la famille. Par conséquent, ils seront attirés par notre mouvement.
Tout cela, en raison de son caractère encore méconnu, n'a été rendu possible que grâce à des capitaux privés par la volonté de naturistes convaincus. Enclos dans ses limites, le club a déjà cessé d'intriguer les ignorants. En de nombreuses occasions, les portes du camp s'ouvrent sur le public intéressé. Ce soir, par exemple, c'est la fête annuelle du club. Initiés et néophytes s'y retrouveront. Un long chemin, déjà, a été parcouru.
La population de Villette nous a adoptés depuis déjà fort longtemps, puisque la section a été créée en 1950. Donc les gens du village nous connaissent et chaque occasion que nous avons, nous les invitons à nos manifestations. Ils viennent tout terrain, les commerçants viennent servir les gens du club. Et chaque fois qu'ils viennent, ils sont reçus aimablement et les gens ne s'habillent pas pour faire leurs provisions auprès des commerçants. Donc ils savent ce qu'il se passe, ils nous connaissent par nos noms et je pense que la population nous a adoptés depuis déjà longtemps.
Ce que vous avez entendu là, c'est un reportage de l'RTF réalisé en 1969 sur le centre naturiste de la Reynière situé près de Lyon. parce que tu m'as parlé aussi de Montalivet, qui est notre centre qui a été créé dans les années 50, qui lui a une évolution tout à fait différente, ainsi que, que l'île du Levant.
Oui, il est à Montalivet. Alors Montalivet est un centre en Aquitaine, qui a été créé encore par le couple Christiane et Albert Lecoq en 51. Effectivement, le centre, c'était un coin du littoral dont personne ne voulait parce qu'il avait brûlé. Et ils l'ont eu pour une poignée de pain, c'est le cas de dire.
C'est le cas de dire, on avait vu que la pinède avait brûlé.
Oui, oui, c'est, en plus, ils étaient loin de la plage. Il fallait être vraiment visionnaire pour se dire que c'était le paradis, quoi. Parce qu'il y avait, c'était le désert. Que, bon, ben, ils ont construit là des bungalows en plein cagnard. Petit à petit, les arbres ont poussé, planté, ils ont végétalisé, ils ont construit une piscine. Et puis, le centre s'est agrandi. Progressivement, ça a accueilli 10 000 touristes. Et maintenant, c'est devenu tellement important, la demande est devenue tellement importante qu'ils ont dû créer deux autres centres à proximité avec Euronat et un peu plus loin les Génies et aussi notre centre en Outshot. La demande était tellement explosive qu'ils ne pouvaient même plus accueillir plus de 15 000 personnes. Donc au bout d'un moment, il a fallu construire à côté.
Tout nu, cul nu. C'est la manière des naturistes, manière de voir, manière de vivre ses vacances.
Il est vrai que la première fois, il avait certainement sa forme de réticence, hein, du fait de notre culture française, latine, judéo-chrétienne, etc.
C'est en 1949, entre cette plage déserte et une forêt calcinée par les bombardements, qu'est né le premier centre naturiste. Harmoniser sa vie avec les rythmes de la nature, vivre nu en collectivité, dans le respect des autres, tels en sont les principes fondamentaux.
C'est toute une philosophie de vie, et l'oubli des différences sociales.
On est tous au même diapason, on ne garde pas la différence sur une personne qui peut avoir un maillot de grand couturier ou un maillot acheté dans une grande surface.
Ici, c'est un peu comme une grande famille. Douche collective, jeu de boules, promenade sous les chênes, toutes sortes d'activités qui ont beaucoup intéressé les voyeurs, mais tout là.
Reportage réalisé en 2010 sur Montalivet, source INA.
Que sont l'île de Levant, qui est aussi réputée pour être un centre naturiste, quoi son origine
Alors le Levant, l'origine, c'est les frères Durville, André et Gaston Durville, troisième aussi Henri Durville, mais il n'a pas fait partie de la création du Levant. À l'origine, ils avaient pour but de créer une cité naturiste en adoptant l'hygiène de vie naturiste des précurseurs. Premier essai se trouve à la Vilaine-sur-Seine, à l'île de Maté, l'île où résidait Émile Zola, qu'ils ont appelé le lieu Physiopolis, mais comme ils étaient trop proches des berges, ils ne pouvaient pas être nus. Ils n'ont pas eu l'autorisation d'être nus. Ça, ils l'ont créé en 1928. Après, en 1931, ils ont appris de la part de Kien Mongeau qu'il y avait une partie d'une île au large de Hyères qui était en vente, et comme lui il n'était pas intéressé puisqu'il avait son propre lieu, le Sparta Club, et il a proposé à Audurville de l'acquérir vu qu'il cherchait un endroit pour pouvoir pratiquer la nudité intégrale. Et donc ils ont acheté 55 hectares je crois en 31, et progressivement ils ont construit des bungalows dessus et ils l'ont géré jusqu'à leur décès. Et maintenant l'île du Levant s'est reconnue de par le monde.
Encore sur les pins en rouge, en vert, en noir de la honte, les nudistes. On leur donne même des coups de bâton pour les obliger à cacher ce que l'île de beauté trouve trop laid pour être exhibé. Aussi ont-ils découvert leur paradis à Héliopolis sur l'île du Levant. Jean-Albert Fox, un pionnier, explique pourquoi.
Si vous voulez, à l'origine, c'était un peu des pionniers. En fait, certains d'entre eux revenaient de Tahiti après un essai d'installation qui n'avait pas été satisfaisant. Mais après cette glorieuse expédition, ils ont choisi le Levant comme base, ils ont créé Héliopolis, et en sorte, au début, ne vivaient à Héliopolis que des gens qui passaient toute l'année, non pas, comme c'est le cas maintenant, beaucoup d'estivants et de touristes étrangers qui viennent y passer 15 jours ou 3 semaines. De telle sorte que nous avons maintenant un éventail composé à la fois, disons, de paléo-naturistes, de gens qui sont là depuis 40 ans, de commerçants, de naturistes qui, eux, sont peut-être de temps en temps végétariennes, d'autres qui viennent ici simplement pour le bronzing. Et, par exemple, tous les journaux nous parlent du string, la ficelle inventée, paraît-il, par les Britanniques. Eh bien, c'est une invention du docteur Durville, ça date de 1932, c'est tout simplement le minimum qui sert de cache-sexe avec trois petites ficelles.
Alors, est-ce que la morale nudiste est contraire à la morale, tout court?
Évidemment pas, vous avez pu le voir et le constater ce matin, toutes les plages sont pleines d'enfants, et notre estimable garde, représentant ici l'autorité, M. Blache, nous disait que depuis 15 ans, il n'y a pas eu un incident ni un accident d'aucune sorte qui puisse mettre en doute le fait que dans un milieu nudiste qui se trouve intégré dans un environnement, que je le répète, de village provençal, puisqu'ici vous avez une église, vous avez une boulangerie, vous avez une école où vont les enfants, la coexistence pacifique est parfaite et elle est totale.
Comment ne pas pratiquer la coexistence pacifique, parfaite et admirative avec d'aussi splendides créatures? Car les problèmes au royaume d'Adam et Ève sont finalement très faciles à résoudre.
Le problème, en fait, le problème c'est un problème de connaissance, de compréhension et de conception de la liberté. Ici, je dois dire, et c'est en ce sens que Héliopolis est un village naturiste exemplaire, chacun vit dans sa conception de la liberté, même s'il n'est pas naturiste. Et cette liberté n'est limitée en fait que par le respect de la liberté des autres.
La municipalité a su prendre des arrêtés intelligents. L'Albial, adjoint spécial pour Héliopolis, s'en déclare aussi satisfait que comblé, et de temps à autre, il s'en souvient.
Il y a 15 ans, on n'avait pas pris les mêmes dispositions concernant une petite zone qu'on a réservée aux nudistes d'une part, et à laquelle sont invités cordialement tous les visiteurs, gratuitement. On n'a pas de carte ici. On se promène dans la tenue qu'on veut, sans carte, sans macaron, et sans aucune pièce d'identité apparente. Sinon des vêtements, des minimums, ou alors du nudisme intégral. Et pour répondre, comment dirais-je, plus administrativement à votre question, donc je vous dirai que la mairie d'hier a bien voulu prendre un arrêté municipal réglementant deux zones. Une vers la plage de Grotte, que vous avez peut-être vu, et l'autre vers ce qu'on appelle la corniche naturiste et l'église. Ces deux zones sont réservées pas exclusivement au nudisme, mais le nudisme est conseillé à tous les visiteurs qui viennent, et dans l'ensemble, les visiteurs s'accommodent fort bien de cet arrêté, de cette réglementation, qui en fait n'est pas une.
Adieu, heureux terriens d'Héliopolis, si les martiens viennent un jour vous rendre visite, ils ne repartiront jamais plus.
Reportage réalisé par France Région 3 en 1975 à Héliopolis, centre naturiste de l'île du Levant.
Pour revenir à Marseille, c'était quoi les centres naturistes à Marseille et est-ce qu'il y avait des conflits à cette époque-là dans les années 50-60 ans
entre naturistes, groupes naturistes?
À Marseille, il n'y a pas forcément... Oui, il y avait des mésententes. Il y a des mésententes suite à des scissions. Autant la scission entre 1930 et 1931 entre les naturistes de Provence et les libres culturistes de Provence s'est bien passée. Il n'y a pas eu de soucis. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Dans les années 50, avec cet anarchiste Alyosha, Oksent Misirov de son vrai nom, avec sa femme Génia, quand ils ont créé ils n'avaient pas vraiment pour volonté de créer un centre naturiste. À l'époque, c'était chez eux et ils accueillaient des amis. Et puis un jour, il y a un adhérent qui, sans leur dire, a fait la publicité de leur terrain dans un magazine naturiste. Et donc, il y a eu un afflux de personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui n'étaient pas forcément des amis, mais c'était des gens qui savaient accueillir les gens, c'est qui savaient accueillir tout un chacun. Même si leur lieu était difficile à trouver, quand les gens arrivaient sur leur terrain, et ben ils l'accueillaient, ils l'acceptaient. Et donc du coup, il y a eu de plus en plus de monde. Ils ont été obligés de se déclarer et de faire payer les gens. Vous pouvez pas offrir le gîte et le couvert, le verre de vodka en tant que bon russe à offrir à tout le monde. Donc du coup, ils ont créé ce club là et ils ont dû déménager. Ils ont été expropriés par le propriétaire du terrain qui se retrouvait à la vieille chapelle à Travers-Parangon, pour ceux qui connaissent, à côté du lycée de Marseille Vert, et parce qu'il y avait des projets de construction. Et donc du coup ils ont déménagé du côté de Gemenos à l'emplacement actuel de Leroy Merlin, derrière Leroy Merlin dans le centre commercial. Et là ils se sont retrouvés sur un terrain complètement désert où il y avait absolument rien, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de végétation, il y avait tout à faire. Et ils ont déménagé leur baraquement et ils ont commencé à végétaliser le lieu et à creuser une sorte de bassin pour la piscine. Et puis il y a des adhérents qui n'étaient pas contents parce qu'ils auraient voulu rester à l'emplacement du roi d'Espagne, à la vieille chapelle. Et Oksent Misirov ne s'était pas battu pour le garder. Il s'est dit, bon, ben, puisqu'on n'ouvre plus, on s'en va. Et donc ça, ces anciens adhérents... lui en ont voulu. Et ils n'avaient pas la force de recommencer à zéro pour reconstruire quelque chose de bien dans ce nouveau terrain. Et ils ont décidé de trouver par eux-mêmes un autre terrain. Et ils l'ont trouvé du côté de Simiane-Collongue. Et là, ils se sont installés et ils ont créé une autre association, le Club du Soleil de Marseille. Et Oksana Tmitserov l'a très 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 mal pris. Et en tant que russe, si tu lui tournes le dos, il te considère comme un traître. T'es tout, soit blanc, soit noir avec lui. Hein. Il n'y avait pas de juste milieu. C'est soit t'étais un pote, soit t'étais un ennemi. Hein. Donc, il était interdit aux adhérents et à ses amis qui fréquentaient le terrain de Jamenos d'aller voir ses anciens amis, donc ses traîtres, à Simiane-Collongue.
Oui, je vois des scissions assez dures entre naturistes. Plutôt des querelles de personnes plus qu'autre chose.
Après, on peut considérer aussi c'est que c'était essentiellement un peu la grande gueule marseillaise, quoi. C'était une sorte de grosse galéjade, de grosses disputes. C'était pas forcément véritablement sérieux non plus, je pense pas.
Donc ça, c'était pour les événements de Marseille à cette époque-là, dans les années 50-60.
Tout nu et tout bronzé. On est bien, on est beau comme un bien laissé. Tout nu et tout bronzé. Au soleil, sur le sable, sur les galets. Tout nu et tout bronzé. Depuis la mer du Nord jusqu'au Pyrénées. Tout nu et tout bronzé. On prend le temps de rêver.
Tout nu, on ne pense plus au métro ni au bureau. Bronzé, bronzé, décontracté, un grand chapeau, pied dans l'eau. Tout nu, comme des Jésus, on fait trempette chez les mouettes. Bronzé, bronzé, on va chasser dans le retraite des crevettes.
Allez vacances, moi quand j'y pense, ça me les mange. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau, quand on vient l'été. Au soleil, sur le sable, sur les galets. Tout nu et tout bronzé. Depuis la mer du Nord jusqu'au Pyrénées. Tout nu et tout bronzé.
Clip de Carlos, réalisé en 1973.
Alors, dis-moi, il y avait des revues naturistes qui apparaissaient à l'époque. Quelles sont ces revues naturistes ?
Il y en avait énormément à l'époque, dans les années 50. Il y en avait aussi dans les années 30, mais dans les années 30, elles n'ont pas forcément duré très longtemps, à part le magazine Vivre de Kiné Monjou, qui a changé plusieurs fois de titre parce qu'il y a eu des problèmes de procès. Donc,
procès quel genre ?
Ben, on l'accusait de pornographie. Il suffisait qu'il y ait un peu de nudité pour que ça soit jugé pornographique. Donc, pour éviter, il était interdit de publication. Il changeait de titre, de Vivre intégralement. Il s'appelait Vivre d'abord, après il s'appelait Vivre santé, Vivre joie et santé.
Il restait le mot Vivre.
Il restait le mot Vivre, sauf une fois où il y avait joie, beauté et santé.
Pourquoi il semble qu'il ait fini ruiné ?
Kiné Monjou, il a fini effectivement ruiné. Il a tout donné pour le naturisme. C'était un aristocrate à l'époque, au début. Et puis, il a tellement investi pour le naturisme. Ses revues étaient très luxueuses. Et il rentrait à peine dans ses frais dans les années 60 avec son centre qui était situé au château d'Aigremont en Normandie. Il s'est installé après avoir déménagé plusieurs fois dans les années 30, où il s'est installé en 1953, par là. Et il a fermé en 1962.
Aujourd'hui, je crois que c'est une EHPAD, c'est ça ?
C'est une sorte de maison de retraite. Pas un EHPAD, une maison de retraite.
Pas très propice au naturisme.
Alors, la direction connaît ce passé naturiste. Il s'y est intéressé pour avoir quelques archives, histoire de savoir ce qu'était le château avant qu'ils se soient installés. Et donc, ce précurseur naturiste, Kiné Monjou, a fini ruiné, effectivement. Et sa revue Vivre, qui était une revue très luxueuse, en format A4, avec des pages très épaisses, et a arrêté sa parution en 63.
sa disparition de sa parution n'a pas empêché l'apparition d'autres revues naturistes. En fait, quelles sont ces différentes revues naturistes?
Alors, dans les années 50, il y a eu la première revue La Vie au Soleil, donc, qui était la revue officielle de la Fédération Française de Naturisme tant que Albert Lecoq était vivant. Après, la revue a été reprise par des maisons d'édition. Mais il y a eu d'autres revues également. Donc, il y avait également Vivre d'abord de Kien Mongeau. Il y avait également des revues qui, on va dire, sous l'aspect du naturisme, sous l'excuse du naturisme, ils en profitaient pour mettre des photos un petit peu coquines, pas être classées dans les revues érotiques.
Oui, donc quoi, des petites revues, soit porno-érotiques, mais qui faisaient semblant de faire du naturisme de manière à faire croire que c'était pas des revues érotiques, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelques revues comme ça qui n'ont pas duré très longtemps, qui étaient à la lisière entre l'érotisme et le naturisme.
Enfin, des fausses revues naturistes, en fait.
Oui, oui, mais enfin, elles étaient gentilles. C'était pas des revues non plus à condamner par le naturisme de l'époque. Il y avait des articles très sérieux, mais avec des photos, on va dire, un petit peu aguichantes. Et il y avait aussi d'autres revues, plutôt des petites revues, des revues de poche, on va dire. Avec, il y avait la revue internationale du naturisme. Il y avait également d'autres revues. Il y avait la revue Nudisme et beauté, Nudisme et santé, qui était fait par un naturisme photographe de l'époque, qui a duré une dizaine d'années. Ce sont des revues qui ont duré de 1950 à 1960. Il y avait aussi la revue Culturo-Naturiste qui a duré aussi 10 ans avec quinzaine de numéros. Alors le Culturo-Naturisme, c'était un courant du naturisme assez atypique de notre point de vue actuel, c'est-à-dire qu'on ne pense pas aujourd'hui que le culturisme a quelque chose à voir de près ou de loin avec le naturisme, mais c'était un courant sportif du naturisme dans le but d'avoir pas un corps musclé mais un corps athlétique en bonne santé. On considère à l'époque qu'être en beau physiquement, c'est-à-dire athlétique, avec des muscles, était synonyme de bonne santé.
Donc avoir du bide et avoir de la graisse, c'était prohibé.
Alors officiellement, oui, c'est ce qu'on disait dans les magazines. Et ce qu'on constatait sur le terrain, d'après certaines anecdotes, c'est que sur le terrain, ben, c'était comme aujourd'hui en fait. Hein. Il y avait sur le terrain, il y avait de tout. Il y avait pas forcément que des athlètes, loin de là.
Même... Donc il n'y a pas des Apollon et des Vénus.
Non, il n'y a jamais eu d'Apollon ni de Vénus dans les centres naturels. Comme pas plus avant qu'aujourd'hui. Disons qu'on mettait en avant de façon idéalisée et la réalité, c'est que les naturistes, même au temps du végétarisme et de l'alcool prohibé officiellement dans les centres de vacances et entre naturistes, même le docteur Joseph Sell n'était pas contre un bon verre de vin au repas consommé avec modération.
Avec modération, pas l'abstinence absolue.
Non, les naturistes, sauf quelques-uns, n'ont jamais été dans la abstinence absolue des bons plaisirs de la vie. La seule chose interdite vraiment qui était combattue par l'ensemble des naturistes, hygiénistes et médecins, c'était le tabac. Le tabac a été très tôt combattu par les précurseurs du naturisme, avec notamment la création de la Ligue contre le tabac. Et la Ligue contre le tabac a été créée par le docteur Joseph Poussel, dont il a été le président très longtemps. Et cette Ligue contre le tabac a été adhérente de la Fédération française de naturisme dès sa création. Je suppose qu'elle a existé jusqu'à ce que le docteur Poussel quitte le milieu médical. Les naturistes ont été parmi les premiers à lutter contre le tabagisme, même le tabagisme passif. J'ai retrouvé des articles des années 60 qui parlent du tabagisme passif, alors que finalement dans les médias, dans les magazines modernes, on n'en parle que depuis les années 90, tout au plus.
Ami fumeur, bonsoir. J'ai une question à te poser, c'est quand je relis, vois des revues naturistes des années 50, des années 60, quand je vois les photos, je vois que les sexes sont cachés sur les photos. C'était quoi? C'était dû à quoi ça? C'était la censure de l'époque?
Alors oui, effectivement, il y avait une censure à l'époque. On voit dans certains magazines des naturistes avec des maillots. Alors à première vue, ça surprend parce qu'on ne comprend pas. Mais en fait, si on regarde bien, les maillots sont dessinés. Et on est loin de Photoshop. Hein, donc vous imaginez un peu le travail que ça devait présenter. Ils dessinaient des maillots.
Et même le sexe, même à nu, mais sans le sexe.
Alors des fois, c'était un corps asexué. Il n'y avait pas de sexe. Et le sexe était gommé. Il y avait de grosses taches blanches à la place du sexe féminin ou masculin, et donc c'était un ensemble, un corps complètement sexué, qui ça dénature un petit peu l'image qu'on voudrait renvoyer du naturisme, à savoir que la nudité n'est pas honteuse. La censure fait que oui, elle devait être cachée.
C'est les mœurs de l'époque. C'était l'histoire continue consacrée à l'histoire du naturisme à Marseille et dans sa région avec Bruno Sorès, auteur de Saint-Maintin du naturisme à Marseille. Troisième partie, les mouvements naturistes après la libération. Réalisation Éric Lebreu, juin 2025, Radio Galère, 48.4 de la bande FM. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.